Bonjour, oui, c'est bon, ça fonctionne. Ok, impeccable. Bienvenue à tous ce soir donc aux Utopiales 2011 pour cette conférence sur steampunk et littérature du 19e siècle. Avec nous ce soir, nous avons quatre intervenants que je vais vous présenter tout de suite. Alors, tout de suite à ma droite, nous avons Greg Broadmoor, qui est donc le responsable de cette superbe affiche qui est juste ici. Ah bah parfait, ça évitera que je le fasse au fur et à mesure. Donc on a un traducteur qui vient de nous arriver, c'est parfait, ça tombe bien, ça m'évitera d'avoir à le faire moi-même. Donc je termine la présentation de Greg Broadmoor. Greg Broadmoor qui a fait l'affiche cette année pour les Utopiales, qui également a l'illustrateur pour la superbe exposition qui est au premier étage, qui a fait également cette petit ouvrage magnifique, publié par Weta. Le Dr. Grodbort presents Victory, c'est un excellent ouvrage de steampunk, influence pulp, c'est très 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 drôle, très très bien fait. À ses côtés, nous avons Étienne Barrier, donc essayiste qui a écrit cet ouvrage, Chez les moutons électriques, le steampunk, l'esthétique rétro-future, qui retrace un peu les jalons du genre, hein, qui présente la genèse, les grandes références, d'où vient en gros le terme steampunk. Donc un spécialiste qui va nous apporter son avis expert sur la question. À ses côtés, nous avons Marc Attala, qui est donc le directeur de la Maison d'ailleurs en Suisse, une maison de l'imaginaire, hein, qui a présenté notamment récemment plusieurs expositions steampunk, notamment celle de Greg Broadmoor, et également une autre exposition récemment du Belge Stéphane Halleux, très belle sculpture de steampunk, qui va lui nous apporter son avis plutôt de spécialiste, puisqu'il est spécialiste en littérature de l'imaginaire et de la science-fiction notamment. Et à ses côtés, Olivier Supio, auteur de bande dessinée, qui a fait beaucoup d'albums dans sa carrière, jusqu'à venir récemment, très récemment, au steampunk, avec cet ouvrage qui s'appelle Un amour de marmelade, un superbe conte, un roman graphique vraiment très très, très beau, qui se passe dans un univers steampunk, un espèce de Paris imaginé, détruit, très très, très, très beau, très très bien présenté. Voilà, donc je vais demander maintenant à nos auteurs de nous présenter un peu leur premier contact avec le genre steampunk. Comment est-ce qu'ils en sont, eux, venus au steampunk? Maybe we'll start with Greg. Greg, you want to start?
Yeah, sure. So the question is how did I first come across?
Yeah.
My earliest memory, actually, the thing I would recollect as steampunk, although I didn't know it was called steampunk at the time, was a role-playing game called, what's that? No, what was it called? Space 1888 or something like that.
Yeah. Okay.
I remember seeing that, but I wasn't aware that it was steampunk. I thought it was just a cool idea of, Victorians in space. That was the only knowledge I had of the notion of steampunk until I created The World of Dr. Grodbort, and then people told me that what I was doing was apparently steampunk. And that was when I suddenly went, oh, okay. So, and I see all these other things that are starting to emerge that were steampunk. But up until that point, I had very little idea, to be honest. Yeah.
Mon tout premier contact avec le steampunk, c'était en fait à l'époque. Alors c'en était, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, et je ne savais pas que c'en était. C'était un jeu de rôle qui s'appelait Space 1889, qui était en fait un jeu de rôle de space opéra, mais avec tout à fait cette esthétique du steampunk. Et c'était le premier contact que j'ai eu avec le genre. Et je ne savais pas que c'en était. Et puis ensuite, je me suis mis à réfléchir et à créer l'univers donc du Dr. Grodbort. Et c'est là qu'on m'a dit, mais ça c'est du steampunk. Mais pour être très honnête, en fait, je ne savais pas que c'en était au début.
Étienne,
Alors, j'ai découvert le steampunk avant le steampunk quand j'étais petit, que je regardais Les Mystères de l'Ouest. Ensuite, il y a eu la découverte des romans de Tim Powers quand c'était traduit en France. Et surtout quand Jean Helliot a publié La Lune seule le sait en 2000. Où là, vraiment, c'était le début d'un voyage sans retour.
Marc,
je suis un peu dans la même configuration que Greg. C'est-à-dire que j'ai découvert le steampunk sans savoir que ça s'appelait du steampunk au sens strict. On pourrait dire la première œuvre que j'ai découverte et que j'ai appelée steampunk en sachant que c'était du steampunk, c'était la BD d'Alan Moore, donc La Ligue des Gentlemen Extraordinaires, où c'est la première fois que c'était labellisé comme ça dans ma tête. Mais ce genre d'esthétique-là, qui n'était pas forcément du steampunk pur, je la connaissais déjà depuis pas mal de temps, que ce soit par rapport à la mode, que ce soit par rapport à des romans que j'avais lus, mais qui n'étaient pas forcément des romans qui seraient aujourd'hui considérés comme du steampunk, enfin, l'idée du phénomène de récupérer des choses pour les remotiver, etc. C'était quelque chose que je connaissais depuis assez longtemps.
Olivier ?
Bah moi, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, les Mystères de l'Ouest, ça me parle, même si c'est plutôt série western, mais c'est vrai, avec tout un tas de gadgets. Mais curieusement, moi, j'ai pas vraiment une culture steampunk, très honnêtement. Ça vient plutôt de lecture, justement. Enfin, bien sûr, Jules Verne, mais aussi un univers qui est plus lié au feuilleton. Feuilleton du 19e, quoi. C'est-à-dire vraiment, je dirais que c'est presque venu après, quoi. Enfin, quand j'ai commencé à travailler sur Marmelade, au départ, c'était pas tout de suite dans l'idée de faire quelque chose de steampunk, en fait. Mais je crois que vu que les influences viennent beaucoup du 19e, je pense que ça c'est du 19e et une partie du 20e, je pense que c'est venu comme ça, en fait. Presque naturellement, mais indirectement.
D'accord. Bah d'ailleurs, tu parles de 19e, c'est une connexion parfaite, puisque donc évidemment notre thématique de ce soir, c'est vraiment les liens entre le steampunk et la littérature du 19e siècle. Alors du coup, si je vais demander à nos auteurs ici présents et nos intervenants de nous présenter un peu leur œuvre référence pour eux du 19e, sachant qu'on va peut-être un petit peu déborder sur le début du 20e et les œuvres pulp et du début du 20e, qui sont évidemment aussi une grosse influence sur le steampunk. Greg,
so to be honest, my initial influence for creating the world of Dr. Grootboot was actually the 20th century. It's actually Flash Gordon and Buck Rogers, and so it's very much, it was at the age of rockets, the age of atomics, the age of radio, ray guns. You know, the principal thing that I first created was a series of ray guns. And that is a very much a 20th century technology. But, of course, what I did was set it in a European, colonial, imperialistic worldview. And I think those sort of trappings make people think that it's perhaps more 18th century. But for me, the Grootboot's world is a large one. It encompasses, has its own history. So it starts in the 1800s and moves through to the 1900s. So many things have influenced it, and you know, the obvious ones are H.G. Wells and Jules Verne, all the science fiction that was based around that, because they were the real gods that were making incredible stuff that inspired so many artists. And I was principally inspired by the artistic works from that era. So when I created Grootboot, it's very much in the early 1900s, but has elements of some of that earlier science fiction. But like I say, it's actually a 20th century influence for me.
Pour être honnête, les influences principales que j'ai eues pour créer l'univers du Dr. Grootboot, en fait, c'est plus des influences du XXe siècle, des choses comme Flash Gordon ou Buck Rogers, etc. Toute cette mythique créée autour des débuts de la fusée, de l'ère atomique, de l'ère de la radio, donc des choses qui sont quand même beaucoup plus liées au XXe siècle. Alors c'est vrai que ça se passe dans un univers qui présente une vision impérialiste et coloniale très inspirée du Royaume-Uni européen. Donc c'est vrai qu'avec cette vue-là, ces tropes-là et cet aspect, on a l'impression que ça s'ancre plus dans le 19e siècle. Mais en fait, le monde du Dr. Grootboot a sa propre histoire qui va d'environ 1800 à 1900. Donc moi, j'ai beaucoup aussi été influencé par des gens comme H.G. Wells, Verne, qui sont finalement les dieux de la SF et qui ont eu toutes ces visions incroyables qui ont influencé énormément de gens qui sont venus après eux. Mais donc, les travaux artistiques qui m'ont influencé correspondaient plus à cette ère, c'est-à-dire début 1900, et puis bah, tous les débuts de la science-fiction qui se sont créés autour de ça.
Étienne, si on peut.
J'ai découvert la littérature du 19e par le cinéma, Un de mes émerveillements d'enfance, c'est découvrir la version de La Guerre des Mondes de 1958, donc diffusée un soir à la télévision. Et ce n'est qu'après que j'ai lu le livre de Wells. Et ça fut une clé vers tout cet univers-là, qui fait que j'ai découvert Wells avant Verne, et que je conserve une tendresse absolue pour Wells, que je trouve, d'un point de vue personnel, littérairement supérieur. J'espère que ce n'est pas interdit de le dire ici.
C'est bon, personne s'offusque, non ? Ça a l'air d'aller.
Voilà, donc vraiment, c'est Wells.
Oui, il est assez difficile de trouver une œuvre phare du 19e siècle. C'est clair qu'on attend.
On peut en dire plusieurs. Hein, si,
voilà,
si
on attend un peu Jules Verne comme réponse un peu classique. Je dirais plutôt, bon, c'est clair, Wells, qui me paraît beaucoup plus intéressant pour la science-fiction que Jules Verne. Mais peut-être aussi les auteurs de fantastique français qui reprennent beaucoup de traditions plus anciennes. Je pense à Villiers-l'Isle-d'Adam, par exemple. Ou bien à l'autre Amont, enfin, ce genre d'auteurs un peu, qui sont en général canalisés dans le genre du fantastique, classique, ouais. Et puis qui finalement ont beaucoup travaillé déjà sur ces phénomènes de réemprunter des grandes traditions, fictionnelles déjà. Et donc, à mon avis, le steampunk a été inventé comme mot au 20e, mais existe déjà alors ultra fréquemment dans le fantastique du 19e siècle. Et donc, il n'est qu'une réappropriation sur le tard d'un phénomène littéraire qui existe depuis plus de 150 ans. Et je pense que c'est ça que je dirais. Le fantastique et Wells, si on tourne du côté de la science-fiction.
D'accord. Ok, merci. Olivier.
Oui, alors, je vais dire quand même Jules Verne. Inévitablement, non, moi, j'ai une tendresse particulière pour La Maison à Vapeur. Ça, c'est vrai que, voilà, c'est... Pendant un temps, je m'étais dit, tiens, est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu t'y attaques ? Mais... ça fait trop peur, quoi. C'est tellement énorme. Enfin, c'est vraiment passionnant. En même temps, moi, je suis très, très marqué par Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais ça, c'est mon côté monstre qui m'a toujours poursuivi sur tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je pense aussi à d'autres choses, sur les plutôt des feuilletonistes. L'autre jour, je suis retombé sur des documents de... je ne sais plus exactement le nom du personnage, mais c'était un indien, le psychagogue. Alors je ne sais plus exactement le nom, peut-être qu'il y en a auxquels se parlent, mais c'était des feuilletons, vraiment des feuilletons très populaires, mais qui dégageaient à la fois de l'exotisme, de l'aventure, et puis en même temps ce côté un peu fantastique, un peu incontrôlable. Donc ça pouvait aller du surnaturel en passant par des choses plus aventureuses, avec des rencontres de personnages de contrées lointaines, comme des thugs, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que je suis plutôt inspiré par je dirais plus par ce côté fantastique, ce côté en même temps aventureux. C'est vrai que c'est ça. Puis je pense à Fantomas, inévitablement, surtout par rapport à Marmelade, il y avait ce côté-là, quoi. Mais il y en a tellement.
Ok. Alors, c'est vrai que dans le 19e, notamment dans le 19e britannique, hein, il y a quelque chose qui semble nous fasciner, un univers, un style qui nous a du coup amené à créer cette espèce de ce genre qu'on appelle le steampunk, qui lui correspond ou qui l'utilise comme cadre de référence très souvent. Alors, est-ce que c'est la classe du gentleman à l'anglaise ? Est-ce que c'est les promesses de la révolution industrielle gâchées un peu de notre point de vue à nous ? Rétrospectivement, qu'est-ce qui nous fascine tellement dans ce 19e siècle, notamment le 19e siècle britannique?
And that's another good question. That's for me the when I'm creating these worlds, fiction is all about simplifying things, right? The real world is incredibly complex. There are many, many layers. If you really want to tell a true story of the real world, it becomes and it becomes impossible to unravel. If you try to tell the history of a modern conflict like Afghanistan or ancient wars, they're just massively multifaceted because there's so many angles, there's so many participants. So fiction is about stripping things away and making it very core and very simple. And so that's why, for me, the appeal of creating an old-fashioned world is nice, because that's what it is. It makes it naive. It makes it what we all know. We go back to sort of old principles, old simple things. And so a character like Lord Coxwain, he... he embodies arrogance and colonialism and being a braggart and, you know, and violence. He is a character that exists now. There are people who have never changed. They will always be the same. But because he's set in this earlier world, we kind of, it just kind of makes it seem simpler and also makes it maybe seem like it's okay in a way. If you were to tell this story now, maybe, he works for Blackwater, you know, he's like a paramilitary or something like that. And maybe that's not as palatable. Maybe you can't make that as funny. So that's part of what it is for me, is if you take an earlier period in time, you can strip things back and make it more iconic, you know. You come back to the simple themes.
C'est une autre très bonne question. En ce qui me concerne, quand je crée donc ces mondes et le monde fictif du Dr. Grotbort, je pense que la fiction se charge souvent de chercher à simplifier le monde. En fait, le monde est extrêmement complexe. Il y a toute une myriade de strates et qui sont quasiment impossibles à démêler. Si vous prenez un conflit moderne comme la guerre en Afghanistan ou même les grandes guerres mondiales du XXe siècle, ce sont des conflits extrêmement complexes avec tout un tas de facettes et c'est très difficile à appréhender. La fiction nous permet de prendre des événements de l'histoire ou de prendre l'histoire et de véritablement la mettre à nu et de revenir véritablement à quelque chose d'essentiel et de quelque chose de très simple. Et je pense que c'est ça qui est super quand on prend un monde ancien et qu'on le met en scène. On peut quelque part le faire paraître un petit peu naïf, on revient à des vieux principes, les choses paraissent beaucoup plus simples. Il y a par exemple un personnage qui est un petit peu jusqu'au boutiste, qui est une sorte de colonialiste, d'impérialiste, et en fait c'est tellement poussé au bout qu'il peut en paraître drôle. Alors que ce sont des personnages finalement qui existent encore aujourd'hui, mais comme c'est placé dans une époque ancienne, ça paraît plus simple. Et puis on se dit que bon, finalement, c'est peut-être pas si grave. Je pense que si on racontait cette histoire-là aujourd'hui, ce personnage-là serait peut-être un paramilitaire, et je pense que ça ferait quelque chose de beaucoup moins bon goût et qui serait beaucoup moins drôle. Alors donc mettre cette distance-là, ça permet de rendre les choses plus simples et d'en faire un petit peu des choses un peu iconiques ou symboliques.
Étienne.
Je dirais que l'auteur steampunk a conscience de l'histoire. Il connaît son histoire, il ne se projette pas dans un passé en se disant « j'ignore le XXe siècle, j'ignore le XXIe siècle ». Et il assume le fait de faire de la fiction. Donc il y a ce double mouvement, un mouvement uchronique et un mouvement historique, qui fait que le steampunk va proposer un retour décomplexé vers un passé qu'on n'idéalise pas, qu'on ne transforme que dans un cadre défini, avec comme volonté finale de retrouver des choses qu'on peut investir dans le 19e siècle, comme disait Greg, mais qu'on ne peut pas investir dans le 21e. Je peux faire au 19e siècle un récit qui sera bourré d'aventures, qui ne sera pas au second degré, qui ne sera pas ironique, qui ne sera pas cynique. Tandis qu'au 21e siècle, le cynisme reviendra presque mécaniquement.
On frise avec la définition de l'uchronie. Là. Alors attention, est-ce qu'on place des jalons ? Est-ce qu'on les fusionne ?
Le steampunk est une forme d'uchronie déviante qui se moque totalement des règles traditionnelles de l'uchronie. À savoir qu'une uchronie suppose qu'il y a un point fixe de glissement par rapport à notre histoire. Dans le steampunk, on se moque totalement de ça. Le principal, c'est qu'il y a eu un changement.
D'accord. Merci.
Ce serait de trouver une autre manière de me rapporter au steampunk, l'importance du 19e siècle. Il me semble que, contrairement à ce que dit Greg, je ne pense pas que la fiction complexifie, je pense que la fiction apporte une nouvelle manière de voir l'être humain que l'histoire n'apporte pas. Je me rappelle toujours de cette phrase d'Aristote qui disait « L'histoire est beaucoup plus invraisemblable que la fiction. En fait, notre histoire personnelle, elle est parsemée de choses qui arrivent et qui ne se repasseront plus. Tandis qu'un livre, on peut le lire plusieurs fois et les événements qui arrivent modélisent en fait une réaction humaine face à un univers, face à une situation, etc., qu'on peut comprendre, ce qui n'est pas le cas dans notre vie en général. Et donc, je pense que la fiction, elle est là pour modéliser des interactions. Et cette espèce de mouvement de reprendre le passé aujourd'hui, bon déjà c'est un mouvement qui n'est pas lié à la science-fiction et au steampunk, il existe depuis l'origine de la littérature, mais c'est peut-être pour se rappeler que le 20e siècle, c'est un monde qui a été modélisé sur le 19e. Là, le 19e, c'est la révolution industrielle, c'est la seconde révolution industrielle, c'est toutes les promesses gâchées, c'est toutes aussi les promesses tenues qui reviennent. C'est aussi un imaginaire. On passe notre temps à revoir des imaginaires. Tout le monde a lu Frankenstein, tout le monde a lu Jules Verne, tout le monde a lu Wells. Donc on est en train de ressasser quelque chose qui fait partie de notre patrimoine. On lit peut-être moins, sauf à l'école, 17e, 18e, 16e, on en lit à l'école, mais de soi-même, tiens, je me fais un petit Voltaire, c'est moins fréquent que de me dire dans les archétypes, dans les choses qui pourraient me faire envie. J'ai l'impression que le steampunk, c'est une manière aussi de... dans le titre de la table ronde, c'est marqué de rendre hommage, mais dans le sens de rendre hommage à ces fictions qui ont modélisé le 20e. Et qui fait qu'aujourd'hui, on connaît plus facilement Dr. Jekyll et Mr. Hyde que des textes obscurs du 19e. On a lu 2-3 Balzac, mais on n'a pas lu toute la condition humaine. Et je crois que c'est peut-être aussi ça. On revient aux sources de ce qui est notre inspiration fictionnelle générale au 20e siècle. Et puis cette inspiration, c'est quoi? Le fantastique, l'émergence de la science-fiction avec Wells ou du merveilleux scientifique de Renard. Et puis ben, tout le roman gothique. Et on mélange tout ça et on a un peu le steampunk, en fait. Donc je pense que c'est plutôt lié à nos sources fictionnelles, quoi, à ces caractères qu'on reconnaît, dans lesquels on se reconnaît, qu'on modélise notre monde. Et puis qu'on ose mettre en scène, en fait.
Tu parles beaucoup du fantastique. Pour toi, c'est un pilier vraiment important dans la conception de steampunk?
Pas nécessairement, pas plus que d'autres genres. Je pense le fantastique parce que tout le monde le connaît. Mais l'idée de reprendre des choses qui existent dans l'Antiquité, ça se fait déjà. Je veux dire, de reprendre des fictions passées, des mythes passés, pour les réinvestir, les retravailler. La plupart des dramaturges antiques font ça. Je veux dire, ils écrivent les mêmes pièces... sauf qu'ils les réinvestissent. Quand les dramaturges français du XVIIe siècle, Corneille et Racine, reprennent les tragédies antiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils reprennent des fictions qui remettent un peu à leur sauce. Ils font quoi? Du steampunk? Non. Donc, mais en fait, oui, d'une certaine manière, si on prend ça d'une manière large. Donc, oui, je parle du fantastique parce qu'il est très proche de la science-fiction sur plein de points.
Olivier?
Ben oui, puis moi je peux pas m'empêcher aussi de rapprocher le steampunk à l'enfance. C'est plus fort que moi, peut-être parce que ça vient de mon parcours aussi, d'avoir bossé, d'avoir fait des livres pour les enfants. Mais moi, quand j'ai vu l'exposition là tout à l'heure, j'avais envie de prendre, enfin voilà, d'être dedans, de courir à côté des grosses bestioles. De vraiment, voilà, il y a quand même un côté rassurant et c'est plus fort que moi. Je trouve que c'est vraiment lié aussi à un fantasme de gosse quelque part, parce que se dire que finalement on réinvente quelque chose à partir d'éléments existants, c'est quand on joue quelque part, c'est quand on joue dans la cour de récré. Enfin, il y a vraiment cette idée d'avoir un support. Et finalement de l'amener vers autre chose, comme si finalement on se créait un monde idéalisé avec des choses qui nous ont rassurés ou qui nous ont marqués. Et ça, finalement, je trouve que c'est ça qui est excitant dans ce côté steampunk, c'est que voilà, on connaît des choses, on a lu des choses, on a vu des images, et finalement on en fait autre chose avec sa vision personnelle. Et je trouve que voilà, c'est un jeu d'enfant, quoi. Enfin, il y a un côté jeu d'enfant, je trouve que. Mais je veux pas que ce soit pris comme une limitation du steampunk. Au contraire, quoi. Je veux dire, c'est un enfant, c'est comme un démiurge, hein, en fait. Hein. Il est vraiment, il a son monde et puis il articule tout son monde autour de lui. Et après, bien sûr, l'idée, c'est de le partager. Autrement, c'est pas intéressant.
Donc, tu parles beaucoup d'aventure. Comme étant important dans le cadre que tu te fixes au niveau du steampunk. Et pourtant, quand on voit Un amour de marbelade, la classe du gentleman aussi, on voit le petit vêtement, le petit lorgnon. Et ça a l'air assez très très présent, le cadre graphique vraiment du gentleman et de la société britannique du 19e siècle. Ça t'a inspiré aussi à ce niveau-là?
Je vais encore revenir sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais justement sur ce personnage, je trouve qu'il y a un peu cette dimension-là de parce que vu qu'il devient quelque chose de difforme, et c'était un homme, et il devient quelque chose de difforme, donc lui il essaye de retrouver quelque chose qu'il ramène de sa condition humaine, dans sa condition humaine. Donc ça passe par un costume simple, mais qui lui permet de reprendre finalement une forme humaine, même si c'est qu'une enveloppe. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a ce côté-là, ce côté un peu strict, un peu classe, un peu british. Mais justement, c'est aussi une manière pour le personnage de redevenir qui il était, quoi.
Ok. Alors, au niveau des codes, hein, les codes du steampunk et les codes de la littérature du 19e siècle ou du début du 20e, il y a beaucoup d'emprunts, il y a beaucoup de parallèles. On a parlé de fantastique, on a parlé d'aventure. Quels sont les grands codes du steampunk et comment est-ce que vous arrivez à les lier un peu à ce qui s'est fait dans le 19e siècle, à ce qui s'est fait au début du 20e?
Sorry, the great
what
codes?
What are the great codes of steampunk? What are the great codes? Trappings and aspect of tropes?
I might let you carry on with that while I can think about it.
The great trappings.
Etienne, est-ce que tu veux peut-être pendant que Greg y réfléchit?
Le steampunk, pour moi, en premier lieu, c'est une uchronie. C'est une uchronie référentielle. Et c'est une uchronie référentielle cool. Référentielle parce que là, il y a quelque chose qui est profondément lié donc, au 19e et au début du 20e. C'est que oui, je peux faire une fiction qui va se dérouler dans le 19e, tel que le racontait par exemple H.G. Wells, mais je peux faire apparaître les personnages d'H.G. Wells. Hein, le Hyde peut apparaître. Mais je peux faire apparaître aussi Wells. Donc les strates de la fiction se multiplient. Ce qui fait que le steampunk n'est pas simplement une relecture d'un imaginaire passé, c'est une discussion avec cet imaginaire-là, par le biais d'un rapport à la fiction. Et en cela, il est profondément moderne.
Bon, évidemment, alors je suis d'accord avec ce que disait Etienne là-dessus, c'est-à-dire le fait de à la fois relire, bon, pour moi dans une relecture il y a nécessairement une discussion, mais donc à la fois une relecture, dans les codes il y a pour moi le côté cool que je trouve assez intéressant, c'est-à-dire le fait qu'on ne se prend pas au sérieux, mais c'est marrant en fait, une fiction qui ne se prend pas au sérieux, parce que pendant longtemps justement c'était le reproche qu'on se faisait à la fiction, c'est qu'elle ne se prenait pas au sérieux, donc... on a un monde bizarre où on pense que les fictions doivent se prendre au sérieux. Et, non, alors je pense effectivement que des fictions qui ne se prennent pas au sérieux, puisque leur objet, c'est la fiction. Et donc, on a une espèce de... On réécrit, on redialogue, on complexifie, en fait, et pas on simplifie. Et finalement, on rejoue... C'est pour ça que j'aimais bien ce que tu disais sur l'enfance. On rejoue les jeux d'enfants. La fiction, elle naît avec l'enfance, et on apprend depuis tout petit à entendre des histoires fictionnelles et à en produire. Et donc, elle est un jeu de créativité et dans cette créativité, il y a un mix. Alors, j'ai de la peine à répondre au code du steampunk, parce que pour moi, on fait beaucoup de foin sur le steampunk, et je trouve ça ultra intéressant, mais je trouve que c'est un phénomène qui est tellement large qui ne devrait pas se limiter à un mot comme ça, en fait. C'est presque dommage d'en faire ça. Pour moi, c'est la définition de la fiction, en fait, le steampunk. Ou plutôt l'inverse, c'est que dans la définition de la fiction, il y a le steampunk. C'est l'idée de jouer avec les imaginaires, de les transformer. Et puis après, ben, plus c'est complexe, plus on joue avec l'imaginaire et plus l'œuvre est dense. Avant, on avait cette dichotomie haute littérature, basse littérature. Alors je sais que c'est plus la mode de dire ça, puis tant mieux. Mais il s'avère quand même que finalement, plus la fiction travaille d'autres fictions, et plus elle est complexe, plus elle suppose de son auteur une maîtrise des fictions, et plus elle est intéressante, moins elle le fait. Moins elle est intéressante, elle est plus facile on interagit beaucoup plus facilement avec. Donc, en tout cas, un des codes, c'est la capacité à jouer sur plusieurs niveaux, 1, 2, 3 ou plus, avec mais ce niveau fictionnel. Voilà, on joue avec des fictions, et la référence, c'est pas forcément le monde du 19e, mais c'est les fictions du 19e qui se passent évidemment dans un monde du 19e.
C'est dur de passer en dernier à chaque fois.
Hein. Non, en fait, t'es même pas dernier, parce qu'il reste Greg. Alors, c'est lui qui aura l'honneur.
Non, mais vraiment, ce qui m'intéresse aussi, c'est dans ce côté steampunk, si on doit parler de code, c'est, je dirais presque, c'est qu'il y en a encore plein à inventer, quoi. Effectivement, on a cette base qui existe déjà, ce patrimoine qui existe déjà de par la littérature, mais on peut aussi parler de cinéma, on peut aussi parler de la mode, de l'architecture, d'énormément de choses. C'est vrai que c'est ça justement qui est commun jeu, C'est-à-dire qu'on a comme un catalogue, enfin, sans parler vulgairement, on a comme un catalogue, pas seulement d'objets ou de personnages, mais aussi d'émotions, hein, parce que tout ça, ça véhicule beaucoup d'émotions. C'est-à-dire que si on s'amuse à construire quelque chose en architecture, on peut très bien mélanger les genres. Je pense que ça aussi, c'est une particularité du steampunk. C'est que il n'y a pas vraiment d'interdiction. On a cette base, et puis après... voilà, il y a quand même une terrible ouverture. Enfin, c'est le champ d'investigation, il est quand même énorme.
Juste une anecdote, oui. En fait, par rapport à ce qu'a dit, je trouve ultra intéressant le fait d'utiliser les objets, parce que je me rappelle une discussion que j'avais avec Stéphane Halleux, justement, quand il parlait de ses pièces. Alors, il le ferait beaucoup mieux que moi, mais j'ai envie de lui faire un clin d'œil parce que je suis content de le revoir aujourd'hui. Quand il parlait de ses pièces, il disait je récupère des imaginaires, je me demande ce qui s'est passé pour chacune de ces pièces, et puis j'espère que cet imaginaire il continue à vivre. Puis pour moi, c'est ça le steampunk. Mais vous voyez, il s'avère qu'on a mis des thèmes, on a mis du cuir, et puis on a mis de la vapeur. Et puis c'est pas tellement intéressant que ce soit du thème. Pour moi, le processus est plus intéressant. Alors j'aimais bien l'idée de l'objet, la récupération de l'objet. Maintenant, après, ça donne lieu à différents courants. Et puis après, on a des courants qui vont se labelliser avec des matières. Et puis ces matières donnent lieu à du steampunk pur et dur ou bien du faux steampunk. Puis ça, finalement, c'est peut-être moins intéressant pour moi, en tout cas, que le processus de base qui, lui, alors, est beaucoup plus large et englobe beaucoup d'autres fictions, en fait. Et c'est ça qui est intéressant.
C'est l'idée un peu de coffre à jouets que j'ai vu utiliser pour parler du steampunk. Le coffre à jouets, c'est-à-dire il y a plein de choses super et puis on a envie de les prendre et de jouer avec, comme disait Olivier. Là, on est vraiment dans ce contexte-là. Greg, do you have any thoughts on this?
Yeah, creation in general is a playground. I mean, there's nothing specific to steampunk that is different from that. Creating any world is playing. I think as an artist, as a writer, or as a person investing in these worlds, all you're doing is finding a place to be a child again and play again. So for me, that's all it is. I'm just staving off adulthood. Yeah, it's simple. And I think I know the secret of steampunk. It's cogs, you know? You just glue cogs on everything.
Okay.
Oui, je pense que ce qui a été dit sur le fait que c'était un terrain de jeu, je pense que c'est très important et que c'est finalement l'essence de la création. C'est pas quelque chose qui est spécifique au steampunk. Je pense que quand on est artiste, quand on est écrivain, quand on est quelqu'un qui a envie de s'investir dans ces mondes-là, effectivement, comme ça a été dit, on revient un peu au stade de l'enfance. Donc peut-être que je me considère comme quelqu'un qui tient l'âge adulte le plus possible à distance. Mais je crois qu'en fait, le véritable secret du steampunk, c'est de coller des engrenages partout.
Donc du coup, on a parlé de littérature du 19e siècle, on parle de steampunk qui fait rêver, qui donne envie de retourner un peu à l'aventure de notre jeunesse, au grand mythe de notre enfance. Et derrière, on repense à Stevenson, à Mark Twain, à Dickens, à Jules Verne, qui ont un peu aussi bercé l'imaginaire des gamins du 19e siècle. Alors là, en termes d'hommage, on est bon, je veux dire, entre ces auteurs-là et les auteurs modernes de steampunk. Est-ce qu'on est vraiment dans la même veine?
I'm not sure if I understood that. Did you? Maybe you start, because I didn't understand the question.
Là, c'est une question vraiment difficile.
Je sais.
L'idée de rester dans la même veine, je pense que c'est possible, à condition d'admettre que les deux personnes ici qui sont des artistes n'ont pas inventé le steampunk, mais ont inventé leur steampunk. Hein? Alors, par la bande, j'évite un peu ta question, mais je pense que c'est dans cette direction-là que le problème tend, et dans le dialogue tel que tu l'évoquais.
Je crois que le fait de rester dans la même veine, ça veut dire qu'on est capable de comprendre ces histoires du 19e, qu'on peut les lire toujours, qu'on les comprend, qu'elles ont une esthétique qui ne nous paraît pas complètement incroyable.
Qu'elles font toujours rêver, elles ont fait rêver, et maintenant c'est notre tour et au tour de tous ceux qui font du steampunk et de la fiction générale de continuer à faire rêver, et qu'avec le steampunk on a une bonne branche en fait, un style qui a de l'avenir.
Oui, enfin, C'est un peu, ouais, oui. C'est un peu dire que est-ce que la fiction fait rêver en général. Je pense que oui, c'est clair que steampunk est bien placé pour faire rêver, mais comme les gens qui adorent le roman intimiste vous diront la même chose. Quelles sont les sources de nos rêves à nous? Comment, c'est pour ça que quand on parle de l'enfance, qu'est-ce qui me faisait rêver quand j'étais enfant? Ben, on va avoir une familiarité avec ça, une connivence particulière. Et je pense que les œuvres du 19e, elles ne faisaient pas rêver tout le monde. Dickens n'était pas lu par l'ensemble de la population du 19e siècle. Donc on a aussi un autre lectorat, on a un autre type d'intellectuel. Les romans au 19e étaient quand même plutôt lus par les hommes, plutôt par les femmes. Et puis il a commencé à lui expliquer que ça pouvait être aussi lu par les gens sérieux. Donc je crois qu'on a aussi beaucoup... Enfin moi, ce que j'entends dans cette question, c'est qu'on a aussi beaucoup fantasmé la littérature du 19e siècle. Et je pense que le steampunk rend hommage à la littérature du 19e, mais elle ne rend pas hommage au fait que la littérature du 19e était quand même... Les romans, il fallait y aller, quoi. Et c'est une reconstruction a posteriori. Jules Verne était quand même relativement mal considéré au 19e siècle. C'était une littérature pour enfants, jeunes bourgeois, pour leur apprendre la science. C'est pas du tout le Jules Verne d'aujourd'hui. Idem, je pense, pour Dickens. Et puis, l'histoire de Flaubert et des Balzac, on les connaît bien. Donc, je sais pas si elle faisait rêver, vraiment. Par contre, je pense que le steampunk, réempruntant cette littérature-là, peut continuer à nous faire rêver, nous, sur nos propres cadres esthétiques, qui sont des cadres imprégnés d'imaginaire, etc., depuis l'enfance.
Oui, puis c'est vrai que aussi il y a le côté, je pense, comme tu disais, de passage. Hein, c'est-à-dire que tout ça continue. Quoi. On est dans toujours cette énergie de créer des choses, de lire des choses. Bien sûr, il y a tout ce qu'il y a eu avant, et ça, c'est propre au steampunk, d'avoir des éléments un peu phares qui sont souvent repris, mais qui font partie de la vie générale. Mais quand on voit Jules Verne, pour citer le plus connu, on peut dire, de ces auteurs du 19e quand même, enfin une grosse présence, forcément, ce qu'on peut dire, c'est que quelque part, lui, il était peut-être justement trop en avance sur certaines choses aussi, je pense que, enfin je veux dire, dans le sens où la vision qu'il avait du futur était peut-être pas partagée, enfin certains pensaient peut-être que c'était pas forcément important, enfin comme tu disais, c'était pas forcément reconnu comme on a pu le reconnaître après. Et c'est vrai que finalement c'est peut-être le fait que ce soit en avance, que c'est maintenant qu'on a redécouvert après un certain temps ces choses-là, et comme si on disait finalement c'était génial, enfin ce côté-là, finalement se dire ces histoires qu'on lisait à l'époque où on n'était pas forcément brimé aussi par, entre guillemets, les limites de la science. C'est-à-dire on ne se bloquait pas en se disant, bah oui, mais maintenant, si on écrit un ouvrage de science-fiction, si on veut être réaliste, voilà, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Tandis que Jules Verne, quand il racontait ses aventures, il n'était pas brimé par une quelconque limite de science. Je pense que ça aussi, ça joue, quoi. Enfin, c'est important.
Est-ce que justement, en steampunk, on la botte pas en touche, la science? C'est-à-dire on sait que ces choses-là, elles ne pourraient jamais fonctionner. Toutes les inventions technologiques qu'on utilise dans le steampunk, elles pourraient sans doute jamais fonctionner d'un point de vue scientifique, mais c'est pas grave. C'est fun, ça en jette, on y va, quoi.
Ouais, mais j'ai envie de dire oui et non. Moi, par exemple, dans Marmelade, il y a un appareil qui s'appelle le chronocorpographe. En fait, si je devais expliquer ce que c'est un mélange entre la radioscopie et puis aussi des appareils qui peuvent permettre d'analyser chacun des éléments qui crée un être humain ou un être vivant. Donc en fait, ça pourrait d'une certaine manière tout à fait exister, même si on voit une espèce de forme. Il y a une forme qui est dessinée, qui est un peu floue, donc qui pourrait correspondre à une radio ou comme un scanner. Enfin voilà, on a une image qui est finalement assez scientifique. Mais après, ça définit tous les éléments qui sont à l'intérieur de cette forme. C'est-à-dire tout ce qui peut être gazeux, tout ce qui peut être solide. Mais après, justement, c'est pareil. Encore une fois, on se sert de ce qui existe. Et puis on le transforme pour servir aussi un récit. Je crois que c'est ça qui est important. On est quand même dans l'idée de raconter des histoires. Donc après, on se sert de ce qui existe et puis on le manipule pour s'amuser à ce que notre histoire soit le plus crédible possible, même si on sait qu'il y a des choses qui sont complètement folles. Et je dirais au contraire. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le côté steampunk.
Greg, est-ce que toi, tu penses que c'est pas grave si tout ce qu'on crée en steampunk, c'est pas scientifiquement prouvé, c'est pas qu'il y a pas des limites de la science-fiction sur le steampunk?
Yeah, that's a very interesting question, and it's interesting to me. It's why I actually started something like Dr. Grootboot's, because I'm very fascinated with science. I read more science than I read science fiction. I'm fascinated by the understanding of the world, and I'm fascinated by the scientific method and changing our way of understanding the world always through new facts. I love the fact that science is ever changing. It is mutable. It's mutable to the facts, and as new facts come up, then science goes forward. And so I love science fiction because it has that basis in science. But with Grootboots and with other steampunk, what appeals to me is that you can break those rules, or you can come back to things that... it comes back to why I created Grootboots in the first place, is the history of science fiction is littered with people projecting and speculating on what would happen based on the current science and where science would take us. And yet, when we look at it systematically, everyone has just we got it wrong again and again and again. There are cases where it's right, but more often there are cases when it's wrong. And Jules Verne's science fiction, if it can be called that, is the same. It's nothing could be of that could be possible, but it was all ignited, imagination ignited by what was possible with science. And for me, creating this world and going back to these roots of science fiction, partly it's actually poking fun at science fiction and saying, look, we thought we'd be able to get in a rocket and fly to the moon in like 20 minutes, you know? Or we thought that there was ether, you know, which maybe there is, but we thought that there was this medium that photons and electromagnetic radiation moved across, and we thought there would be ray guns. We thought we'd have rocket packs. We thought we'd have this, that, and the other. So the fact that we thought that we would have all these things that were that science would give us, that's interesting to me, and I play with those concepts. And so it's actually what sort of set me off on the path in a way. And there, within Grootboots, there are many of those ideals. Yeah.
Donc oui, c'est une autre question intéressante. En fait, pour moi, si je reviens à la raison pour laquelle j'ai créé Dr. Grootboot au début, en fait, la science me fascine. En fait, je pense d'ailleurs que je lis davantage de science que de science-fiction parce que je suis fasciné par la façon dont on comprend le monde. Je suis fasciné par la méthode scientifique et dans la façon dont finalement la science change en permanence, qu'elle peut muter sur la base de nouveaux faits qui sont découverts. Et j'aime la science-fiction justement parce qu'elle a cet ancrage scientifique. Mais justement, alors effectivement, avec Dr. Grootboot, j'ai la possibilité de rompre, de briser un peu ces règles. Et c'est la première chose qui m'intéresse. Et la deuxième, finalement, revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, la raison pour laquelle j'ai créé cet univers. En fait, l'histoire de la science-fiction est littéralement peuplée de gens qui ont extrapolé sur ce qui pouvait se passer, sur ce qu'ils imaginaient qu'il pourrait arriver sur la base des faits scientifiques courants qui étaient disponibles à leur époque. Et en fait, si on regarde ça de façon très systématique, ils se sont trompés quasiment de façon systématique. Dans de très rares cas, ils ont eu raison, mais l'immense majorité, ils se sont trompés. Même la science-fiction de Jules Verne, c'est la même chose. Quasiment rien de ce qu'il dépeint ne pourrait être possible. Mais leur imagination a été allumée, attisée par l'effet scientifique qui était disponible à leur époque. Et c'est ça qui m'intéresse, de revenir aux racines de la science-fiction et finalement de m'en amuser un petit peu. Il y avait des tas de trucs qu'on croyait qui finalement étaient impossibles et qui nous font sourire aujourd'hui. On imaginait qu'on aurait des fusées qui nous permettrait d'aller sur la Lune en 20 minutes, qu'il y avait cette espèce de médium qu'on appelait l'éther, alors bon, peut-être que ça existe quand même, mais dans lequel on pensait qu'il servait de moyen de transmission aux photons, aux interactions électromagnétiques. On pensait qu'on aurait des jetpacks avec des fusées pour s'envoler. Voilà, mais c'est la science nous donne tous ces concepts intéressants et avec lesquels on peut jouer. Donc il y a beaucoup finalement de ces idées, même de ces idéaux qui sont présents dans Grootboot.
Ok. Étienne, est-ce que tu voulais réagir? Je crois que je t'ai vu, quand j'ai posé la question, je t'ai vu faire un geste.
Non, c'était simplement par rapport à ce qu'il disait. L'idée que le steampunk... ne pas oublier l'idée que le steampunk n'est pas un, mais c'est une infinie de variations. Il y a du steampunk scientifiquement cohérent. Je pense à la machine à différence de William Gibson et Bruce Sterling. il y a du steampunk à base de zombies, il y a du steampunk à base de magie. Donc on peut pas, ou alors on le fait un peu artificiellement a posteriori, rétablir une cohérence thématique à quelque chose qui est finalement à chaque fois une recréation.
Alors, il nous reste une grosse dizaine de minutes. Est-ce qu'on a des questions dans le public pour nos auteurs ? Est-ce qu'on a des questions ? N'ayez pas peur. Alors, vous les avez laissés sans voix. Oui, là-bas.
Oui, vous parlez de l'hommage, enfin, des hommages aux auteurs du 19e. Est-ce que le steampunk, enfin, les mouvements steampunk ne permettent pas non plus de redécouvrir des auteurs du 19e ? Là, je pense, j'ai Robida en tête, j'ai que lui, mais je pense aussi à la Brigade Chimérique qui a permis la réédition de Nick Talop, etc. Est-ce que ça ne permet pas de retrouver aussi des choses qu'on a peut-être oubliées ?
Je peux peut-être répondre. Si... en fait, par principe, oui, puisque le fait de s'inspirer, le fait de construire un imaginaire en s'inspirant d'imaginaires passés fait que tout dépend déjà, un, les imaginaires qui vous ont influencé, c'est ce que disait Greg aussi sur le fait que la créativité de chacun, finalement, lui est personnelle. Il y a des choses qui nous ont marquées quand on était enfant, ado, jeune adulte, et puis qu'on a envie de travailler, parce que justement on peut établir un dialogue avec cet univers là et donc vous pouvez très bien retravailler n'importe quel auteur et il serait intéressant d'ailleurs d'avoir du steampunk qui retravaillerait par exemple des personnages fictionnels ou des univers ou des personnages fictionnels qui parcourent en fait l'histoire de l'imaginaire, ce qui peut se faire évidemment, c'est-à-dire l'idée de redécouvrir des auteurs inconnus, de faire entrer en interaction pas seulement un héros plus Wells, mais en même temps amener Ovid là-dedans, parce qu'il nous a quand même apporté 2-3 trucs. C'est l'idée même de la créativité, de pouvoir interagir avec, on va dire, n'importe quoi, mais sans l'aspect péjoratif du seul n'importe quoi. Et puis donc évidemment de retrouver d'autres auteurs, à condition justement que le dialogue qu'on y établit est intéressant pour d'une part découvrir un nouvel imaginaire, et puis voir autrement l'auteur qui est repris.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre parmi vous qui veut réagir, Étienne ?
Je pense à la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est passé les premiers volumes, qui sont des récits d'aventure presque traditionnels, s'embarquent dans une exploration de toutes les fictions. Alan Moore fait rentrer toutes les fictions jamais écrites dans son histoire. Enfin, dans notre histoire. Et là, le récit ne devient plus steampunk. On est vraiment dans un ailleurs ultra référentiel.
Do you want to react on that question or not particularly?
And basically, what you're saying is, does that allow people to discover older works
and rediscover? Yes. Older
yeah,
works.
Yeah. Of course, the simple answer is yes. Yeah, and that's
I'd
a
like
great
that.
Thing. It's a great thing if younger people. Can discover works because these are inspired by them, then that's a great thing. Yeah, that's why these works work for people. It's why people like steampunk, evidently, is because it harkens to something that we're all familiar with. It's referential, you know. I mean, I think, as you're saying, Alan Moore, he's referential to many things. He hasn't been specific. He hasn't called it steampunk. It's just he is the things that are interesting to him, and he has aggregated them and made something interesting out of it. And we all feel... We love that. We love when fiction references other fiction, and if that allows us to go back and find those earlier works or learn more about them or learn about the history of them, then that's a great thing.
Donc oui, la réponse en un mot est oui. Et je trouve que c'était une excellente chose de pouvoir revenir, et notamment pour un public un peu plus jeune, que ça permette un peu de revenir à ces travaux qui ont pu servir d'inspiration. Je pense que les gens aiment le steampunk parce que c'est un genre qui déjà se fonde sur des choses qui leur sont sur une base qui leur est familière, que c'est référentiel. On parlait d'Alan Moore tout à l'heure, c'est vrai qu'il a mis énormément de choses dans League of Gentlemen Extraordinaires. Il n'a d'ailleurs pas défini ça comme étant steampunk. Pour lui, il a juste mis toutes les fictions qui lui étaient intéressantes, il a agrégé ça pour en faire une histoire différente. Et je pense qu'on aime quand la fiction fait référence à la fiction, et ça permet effectivement de découvrir ses anciennes œuvres, et je trouve que c'est quelque chose de bien.
Juste un dernier mot par rapport à ça. Ça me frappe toujours quand on parle de steampunk, mais aussi d'autres choses, c'est qu'on parle jamais des narrations, en fait. On parle des thèmes et du fait qu'on réemprunte. Pour moi, le fait de réemprunter des personnages puis de les mettre dans une fiction, enfin, à la rigueur, je peux ça trouver ça tripant une fois, peut-être deux, puis après ça m'intéresse plus. Qu'est-ce qu'on cherche quand on lit une histoire et quand on lit une BD? Et je suis pas sûr qu'on cherche, à part si vraiment c'est le seul objectif qu'on peut avoir dans son existence, mais le fait de revoir des héros de fiction collaborer ensemble, c'est pour ça que l'échec par exemple de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, le film, c'est parce qu'on met juste des héros qui se balancent dessus, puis c'est pas intéressant parce qu'il n'y a pas d'histoire. Et la force d'Alan Moore, c'est pas de mettre, même s'il le fait, mais c'est en mettant les fictions à l'intérieur de sa fiction, il crée aussi un scénario, et c'est ce scénario qu'on découvre, qu'on thématise en général pas, qui est intéressant. Et je crois que si c'est juste pour remettre des personnages fictionnels, bon ben, je vois aucun intérêt à faire ça, parce que justement, ce qu'on cherche dans une histoire, c'est l'histoire. Et pour moi, le steampunk devient intéressant quand il nous apprend quelque chose de notre propre manière de vivre aujourd'hui, parce que justement, notre manière de vivre, elle est fictionnelle. Et on est entouré de fiction, et donc notre manière d'interagir les uns avec les autres, on se déguise, on prend des postures, on est intéressé par un personnage, etc. On peut même la jouer à la ceci ou cela, on veut ressembler à telle et telle personne, c'est parce qu'on est complètement transpercé par les fictions. Et quand le steampunk peut montrer la manière dont nous, on se transperce de fiction, et puis comment on peut réélaborer ce rapport aux fictions, alors là, ça devient vraiment, vraiment intéressant pour moi. Qu'on ait un seul personnage fictionnel ou un million.
Et dans la question du jeune homme, il y avait une référence à la Brigade Chimérique. Alors, dans la Brigade Chimérique, on est dans une espèce de ligue des gentlemen extraordinaires à la française, en utilisant des personnages du début du XXe siècle. Du coup, dans ton contexte, ce que tu viens de dire, Marc, c'est que ça va t'intéresser à un moment, et puis pas sur le long terme. Quoi.
Complètement.
Ok, au moins c'est honnête. Est-ce qu'on a une rapide question avant d'en finir? Une petite dernière question? Oui, je vois ici.
Oui, bonsoir. Moi j'aurais une question à poser, c'est par rapport au roman feuilleton. Parce que si on revient un petit peu historiquement, le roman feuilleton, c'est ce qui a popularisé la littérature. On parle de littérature à un sou, c'était dans les journaux, c'était plein de cliffhangers en fin de chapitre, et on a fait des cycles comme ça, comme les Mystères de Paris, c'était un des premiers, et ça marchait énormément, c'était très populaire. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le steampunk, c'est surtout un exercice d'écriture, c'est-à-dire un exercice de style. Les auteurs aiment bien tenter un roman ou deux maximum pour peut-être essayer le roman feuilleton, mais pourquoi on n'a pas de grands cycles? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas, comme en fantasy ou en science-fiction, des longues épopées de space opéra ou d'heroic fantasy? En steampunk, c'est généralement juste des one-shots. Et je voudrais savoir pourquoi.
Oui, alors déjà, moi je pense quand même qu'aussi il y a une question de maison d'édition. Parce qu'en plus, actuellement, on est quand même dans une période où il y a énormément de livres qui sortent. C'est déjà difficile quand on fait une série, on commence à faire une série, et là je peux te dire que je sais de quoi je parle. Quand on commence à élaborer quelque chose, qu'on commence à créer un univers et que finalement on ne peut pas aller jusqu'au bout de cet univers, je pense qu'il y a plein de créateurs, plein de dessinateurs, de romanciers qui seraient ravis de pouvoir se plonger dans un univers sur le long terme. C'est-à-dire de vraiment se dire, allez voilà, je prends possession de mon histoire, mon personnage je le creuse. Je creuse sa vie, je creuse ses relations, pourquoi il est comme ça, pourquoi finalement, quand il se retrouve face à une difficulté, il va réagir de telle ou telle manière. Ça, je veux dire, si un éditeur est partant, quand il veut, hein, je veux bien faire ça pendant 10 ans. Franchement, je pense qu'il y a, vraiment ce cas-là. J'entends souvent des choses comme ça, on me dit, bah oui, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Franchement, moi, ça m'intéresserait beaucoup. Ça m'intéresserait beaucoup de travailler sur un personnage ou sur un univers et de pouvoir le... Je sais que Marmelade, si on me proposait de partir sur 10 bouquins, et pourtant ça a été difficile pour moi physiquement de le faire, je suis partant sans problème.
Avis aux éditeurs, donc.
Maintenant, oui. Bon. Après, j'en ai un quand même. Mais je veux dire, voilà, c'est aussi parce qu'il y a une ligne éditoriale. Actuellement, malheureusement, j'ai tendance à dire, on est un peu dans le buzz. C'est-à-dire qu'on va plutôt croire en un livre qui va marcher parce que ça correspond à un moment donné. Mais après, bien sûr, moi, je préférerais travailler vraiment sur du long terme. Parce qu'en plus, ce que je trouve hyper... je vais arrêter après. Ce que je trouve hyper frustrant, c'est que quand on commence à rentrer dans un univers, on est bien dedans. On est vachement bien dedans. On a envie d'amener davantage, de construire, de creuser. Mais après, on n'a pas toujours la liberté. Alors si, il y a par le biais, comme j'ai rencontré ces personnes tout à l'heure, par le biais de blog, par le biais d'Internet. Heureusement, il y a plein de personnes, aussi souvent par groupe, qui développent des choses sur le long terme. Mais c'est vrai qu'après, c'est pas forcément évident quand on veut essayer de monter un projet sur des projets, sur des histoires sur le long terme. Mais moi, j'adorerais faire un roman feuilleton avec un personnage qui vit à chaque numéro, même le tirer sous forme de papier journaux. Hein. Franchement, je trouverais ça super. C'est quelque chose qui me botterait énormément. Et même avec l'idée d'une sortie chaque semaine. Moi, j'ai travaillé en presse. C'est super excitant de se dire que voilà, chaque mois ou chaque semaine, il faut tomber des dessins, il faut continuer à être cohérent sur le long terme. Et ça, c'est quelque chose que, franchement, montez vite votre maison d'édition. Et puis, non, mais c'est très intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont dans cette envie-là.
On va être obligé de s'arrêter là parce qu'on est au bout de notre heure. Merci à tous d'être venus pour parler un peu de steampunk tous ensemble. Remercier nos quatre intervenants, s'il vous plaît. On leur souhaite une très bonne continuation dans tous leurs domaines.